Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis là pour vous présenter d'abord la vision pour laquelle je suis ici et par la suite nous allons terminer par la parole du Seigneur. Alors, est-ce que on peut montrer la première image? Alors, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis pasteur Crajan de l'Alliance chrétienne de Côte d'Ivoire. J'ai eu plusieurs fonctions au sein de l'Alliance là-bas. Mais je suis actuellement aumônier militaire dans les forces aériennes de Côte d'Ivoire. Je suis aussi enseignant dans les facultés et instituts de théologie de l'Alliance en Côte d'Ivoire et membre du conseil d'administration de l'Alliance. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est le point vert que vous voyez là, en Afrique de l'Ouest. Vous avez là la Côte d'Ivoire et toutes les régions. Alors, nous avons à l'Est, au côté droit, le Ghana. Au Nord, nous avons deux pays qui font la frontière, le Burkina Faso et puis le Mali. Nous avons à l'Ouest ici, deux pays aussi, la Guinée et le Libéria. Et au sud, nous avons l'océan Atlantique. Alors, ici, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, qui est au cœur du pays. Et moi, je suis originaire de Bouaké, qui est la région au centre de la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire est une république, comme la France. La Côte d'Ivoire fait partie de l'Union africaine. La superficie de la Côte d'Ivoire est de 322 462 km². Et la population est estimée aujourd'hui à 26 578 367 habitants. La Côte d'Ivoire a pour capitale politique Yamoussoukro, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Et la capitale économique, la plus grande ville, c'est Abidjan. Elle se trouve au sud. La Côte d'Ivoire pour langue officielle, le français. Mais nous avons plusieurs langues nationales. Nous avons 60 langues nationales qui sont parlées. Donc, quand moi-même ivoirien, quand je traverse les régions, si je dois parler aux populations, j'ai besoin d'interprètes. Ensuite, nous avons la monnaie utilisée, c'est le franc CFA. Le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est donné depuis par la colonisation et c'est ce que nous utilisons toujours. Le pays fait partie de la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et il y en a 16 pays dans la CEDEAO, dans cette union monétaire. Et la Côte d'Ivoire seule pèse 40% de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, sur 16 pays, la Côte d'Ivoire seule fait 40% de l'économie. Donc, vous voyez un peu le poids de ces pays dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, je voudrais un peu parler de l'Alliance en Côte d'Ivoire. L'Alliance est venue de la mission évangélique CMA, qui est venue implanter l'Alliance en Côte d'Ivoire depuis 1930. Et elle a été dirigée par un pasteur missionnaire de 1930 jusqu'à 1960. Parce qu'en 1960, quand les pays africains ont gagné leur indépendance, les églises aussi devaient avoir leurs indépendances. Donc, il fallait un Ivoirien pour diriger. Et nous avons eu notre premier président africain en 1960. Et de 1960 à 2017, aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième président national. Alors, je voudrais parler un peu des grands axes de développement que fait l'Alliance en Côte d'Ivoire. Alors, la première action de l'Alliance est basée sur la formation. La formation à tous les niveaux. C'est pourquoi nous avons quatre grandes institutions de formation. Alors, la première, c'est EBAC, qui est l'école biblique de l'Alliance chrétienne, qui forme des laïcs, des personnes qui ont des vies professionnelles, mais qui voudraient avoir des connaissances pour servir comme diacre ancien. Les cours se font en modules. Après, nous avons l'IBACI, qui est l'institut biblique de l'Alliance chrétienne de Yamoussoukro. Et donc, ils forment tous les pasteurs titulaires, tous les pasteurs consacrés de l'Alliance. Et nous avons l'ISTAC, qui est l'Institut supérieur de théologie évangélique de l'Alliance, qui forme jusqu'au niveau licence. Et après, nous avons la FATEAC, qui est la faculté de théologie évangélique de l'Alliance chrétienne, qui forme jusqu'au Master 2. Donc, de Master 2, là-bas, nous venons à Vaux-sur-Seine ici pour faire le doctorat. Ensuite, nous travaillons au niveau de la prière. On a créé des campus, il y en a 26 campus. Les campus sont les regroupements de fidèles dans les régions de la Côte d'Ivoire pour passer 1, 2, 3 jours à prier pour le pays, à prier pour l'avancement de l'Évangile, à prier pour l'Alliance. Ensuite, nous avons aussi des actions missionnaires. Et là, nous avons installé 80 champs missionnaires. Les champs missionnaires, ce sont des zones où il n'y a pas d'église. Alors, je vous retourne un peu à la carte de la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez à partir de cette ville Bouaké, Chomoi, en coupant le pays en deux, tout le sud est christianisé. Il y a beaucoup d'églises dans cette zone sud de la Côte d'Ivoire. Mais à partir de Bouaké, en remontant dans tout le nord, c'est islamisé. Depuis, l'islam est venu du Maghreb, Mali, jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une zone difficile à l'évangile. Mais ces dernières années, il y a une ouverture dans cette zone. Et nous avons envoyé des missionnaires dans la zone nord. Et nous avons 80 champs missionnaires. Et de 2012 jusqu'à 2014, nous avons mené des actions d'évangélisation dans tout le nord. Alors, ça s'est soldé par 7782 convertis qui constituent des églises locales aujourd'hui dans le nord. Nous faisons aussi des actions de développement. L'Alliance en Côte d'Ivoire a des écoles primaires, secondaires, à des centres de santé. Et aussi, nous faisons de l'humanitaire côté social. C'est que nous, l'Alliance, fait l'accompagnement des personnes touchées par le SIDA, le VIH. Et donc, nous avons une organisation appelée Espoir et Vie qui s'occupe de ces personnes-là. Alors, les communautés ou lieux de culte, ce sont les églises locales. Au niveau de l'Alliance de Côte d'Ivoire, nous avons 4300 lieux de culte de dimanche dans tout le pays. Et les paroisses sont les regroupements des lieux de culte. Nous avons 371. Et nous avons regroupé les paroisses en districts. Nous avons 92. Et les districts aussi ont été regroupés en régions. Nous avons 21 régions. Les pasteurs qui travaillent aujourd'hui pour l'Alliance en Côte d'Ivoire sont au nombre de 425 pasteurs. Mais plus haut, vous voyez dans la formation là-bas, c'est noté 480. Nous avons formé 480. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont allés dans d'autres missions, il y en a qui sont décédés, mais en activité aujourd'hui, nous avons 425. Et le nombre de membres de l'Alliance en Côte d'Ivoire, nous sommes à 600 000 environ depuis le recensement qui s'est achevé en 2011. 600 000 membres. Alors la vision pour moi, cette vision, elle se résume en quatre grands points que j'ai mis sur le tableau ici. Avant ça, il faut savoir que cette vision m'a été donnée depuis 2004. En 2004, je suis venu en France pour la première fois. En venant ici, j'avais une idée en venant, c'est que la mission est partie de la France. On a eu les missionnaires français, on a eu des missionnaires américains. Et je pensais que l'Église était un peu répandue comme chez nous. Si vous arrivez à Abidjan, on a ce que nous appelons là-bas les églises boutiques. Dans toutes les rues, vous voyez des portes ouvertes, des magasins transformés en églises. Donc, tout le monde parle église, c'est pas choquant, c'est populaire. Quelquefois même, c'est difficile de dire que tu n'es pas chrétien. Et donc, je venais avec cette idée que la France qui nous a envoyé l'évangile aurait beaucoup d'églises étalées, mais j'ai été un peu choqué parce qu'on a visité de grandes cathédrales, mais c'était ouvert pour le tourisme. Voilà, on fréquentait pour les touristes et j'ai été choqué. J'ai dit, cette Europe, cet Occident qui nous a apporté l'évangile, il faut que nous venions restituer cet évangile pour que l'évangile croisse ici. Alors, j'ai eu la vocation de venir servir ici en Europe auprès de l'Alliance. Alors, pour moi, c'est de venir aider les églises en difficulté, les communautés en difficulté à croître par expérience depuis mon ministère. Deuxièmement, c'est d'aider aussi à l'implantation d'églises qui peut se faire à partir du moment où on a un ou deux membres de l'église qui sont dans une autre localité où il n'y a pas d'église. On peut commencer par les fréquenter en créant une cellule. Et de la cellule de maison, on peut avoir au fur et à mesure une communauté et qui peut faire le travail d'évangélisation pour croître son nombre. Et troisièmement, j'ai pensé à tous nos frères qui sont avec nous, qui viennent du Sud, qu'ils soient d'Asie, qu'ils soient d'Afrique, mais principalement de l'Afrique, qui sont membres de l'Alliance là-bas chez nous, président de jeunesse, aumônier de jeunesse, quelquefois moniteur du corps du dimanche, ou membre du conseil. Mais quand ces personnes viennent pour des études ici, ou viennent pour travailler en Europe, ce que nous avons constaté, c'est que 10 années après, quand ils nous retournent, ils ne sont plus membres de l'Église, ils sont plus chrétiens. Le constat, c'est quoi? C'est que ces personnes n'ont pas été bien accueillies par la famille spirituelle à leur arrivée ici. Ils sont descendus dans une société occidentale qui les a absorbés et finalement, la foi a disparu dans leur cœur. Alors, le rôle que nous voudrons jouer ici, c'est depuis l'Afrique, comme j'ai été secrétaire général national de l'Alliance en Côte d'Ivoire, donc j'ai travaillé avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, nous faisons un lien sur leur site web là-bas, de sorte qu'on ait nos références et que les pasteurs nous les recommandent même par Internet, que nous les recevions ici et que nous les introduisions dans nos églises en France. Donc, il y a ce côté de la diaspora africaine qu'il faut intégrer dans les églises de l'Alliance. Et quatrième et dernier point, c'est au niveau de la formation. Je suis formateur après la faculté de théologie. J'ai travaillé dans des églises, mais ces dernières années, on m'a détaché pour l'enseignement à la fac, pour l'enseignement dans les instituts bibliques. Et je pense pouvoir aussi apporter ma contribution pour les églises de l'Alliance ici à former les fidèles, à former les pasteurs, afin que nous ayons des personnes qualifiées pour servir dans l'église. Donc voilà ces points. Alors, nous avons quelques sujets. Je voudrais que vous priez pour nous, pour le soutien de notre ministère, parce que depuis 2004 que j'ai eu la vision, ce qui a bloqué jusque-là, c'est le soutien financier. Donc, vous priez pour nous, priez pour notre ministère, priez pour que Dieu fasse en sorte que ce ministère soit une réalité. Priez également pour notre intégration à l'Alliance France. Le conseil d'administration de l'Alliance m'a invité de venir me présenter et connaître l'église de l'Alliance ici, afin qu'une communauté m'accepte. Donc, je suis venu pour me présenter, pour me faire accepter par une de nos communautés ici, afin que je puisse travailler à côté de cette église-là. Priez également pour une orientation claire de notre vision, de notre ministère, afin que Dieu dise spécifiquement ce que nous pouvons faire et concrètement au sein de l'Alliance. Et puis, dernier point, c'est pour le visa. Les Africains ont des problèmes pour avoir le visa et donc prier parce que je suis venu depuis 2004, chaque année je viens en France avec les militaires ivoiriens, mais quand on doit venir avec la famille, il y a beaucoup de barrières à franchir. Donc ça c'est pas facile, prier pour que quand Dieu sonnera, cela soit possible. Donc voilà un peu la vision que j'ai eue, raison pour laquelle le pasteur Daniel, membre du conseil d'administration de l'Alliance ici, ont bien voulu que je vienne me présenter à vous. Merci. Alors, là nous venons de lire un texte dans le livre de Marc, chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Et la Bible dit qu'il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Je voudrais m'appuyer sur ces textes pour traiter un sujet important, le disciple de Jésus. Et j'ai donné comme sujet cet après-midi le disciple établi par Dieu. Qui est le disciple établi par Dieu? Et comment Dieu établit ce disciple-là? Mais je voudrais porter un regard un peu sur celui qui nous donne ce verset, Marc.
Marc, dans son évangile, souvent, si vous avez l'habitude de lire, c'est que Marc n'est pas théoricien, il est très pragmatique. Il est très court. Et il y a une expression qui apparaît souvent parce qu'il montre ce que Jésus fait. Il rapporte les œuvres de Jésus et on passe d'une action à une autre. Et l'expression de transition pour Marc, souvent, c'est « aussitôt ». Si vous regardez, vous verrez « aussitôt ». Jésus est en train de faire une action là, « aussitôt ». Il passa à une deuxième action, « aussitôt », il passera à une troisième action. Il rapporte donc les œuvres du Seigneur plutôt que les enseignements. Or, quand nous voyons dans le livre de Matthieu ou de Luc, Matthieu, lui, qui montre un Jésus roi qui reviendra et des enseignements que Jésus donne, des mêmes que Luc. Mais Marc, lui, il parle des serviteurs. Il parle d'un Jésus serviteur. Et donc, Jésus qui sert ici, et aussitôt, il passe à une autre action. Et nous voyons qu'aussitôt ressort au moins 40 fois dans son évangile. Le but donc de Marc est de présenter Jésus comme serviteur de Dieu. Que Jésus n'est pas seulement un roi, mais il est aussi un serviteur. Et il dit que Jésus, le Fils de l'homme, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et nous lisons cela dans Marc 10, verset 45. Dès donc les premiers pas de Jésus dans le ministère, Jésus est entouré par plusieurs personnes. On voit plusieurs appelés disciples qui accourent auprès de lui et qui les suivent. Jésus doit faire un choix. Il doit choisir des personnes. Comment Jésus donc va choisir ces personnes? Comment Jésus va établir ses disciples, appelés apôtres? Nous allons voir trois façons utilisées ou procédées par Jésus pour établir ses disciples. La première, c'est que Jésus recherche la volonté de Dieu. Et nous voyons cela dans le verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut. Il monta sur la montagne. Le fait que Jésus soit monté sur la montagne n'est pas un fait de hasard. Vous savez qu'en Orient, les hauts lieux, les montagnes, les altitudes sont des lieux de rencontre des divinités. Et ça n'a pas été la première fois où Jésus est allé sur la montagne. Jésus est allé plusieurs fois sur la montagne. Vous vous souvenez de sa montée sur la montagne où il est allé prier avec quelques disciples et sont apparus à côté de lui, Moïse et Élie. Et l'un des apôtres n'a pas manqué de dire, il est mieux que nous bâtissions ici trois tentes pour que nous demeurions définitivement ici. C'était sur le mont Tabor. Vous voyez aussi l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. Et cela s'est passé aussi sur le mont Carmel. En fait, les hauts lieux en Orient sont des lieux où nous allons. Et chez moi en Afrique, c'est presque la même chose. Je suis d'une culture, je suis né dans un village et mes parents sont animistes. L'animisme, c'est l'adoration de plusieurs croyances à la fois. Il y a pas un Dieu unique pour tout le peuple. Chacun a son Dieu. Donc, chaque famille a ses fétiches. Et c'est dans ce paganisme-là que je suis né. Et mes parents me conduisaient souvent à aller sur une des montagnes non loin de notre village pour aller faire des adorations. Et ces lieux sont tellement saints que quand on finit les sacrifices là-bas, en descendant de la montagne, il nous était interdit de regarder à gauche ni à droite, ni en arrière. Tu regardes tout droit sur environ 4 km de descente. Il ne faut pas regarder en arrière, ni à gauche, ni à droite. Tu as les yeux fixés sur les sentiers au devant. Tellement qu'on craint, en regardant en arrière sur la montagne, de voir les dieux en train de se mettre à table des sacrifices que nous avons offerts. Et c'est très important. Le Seigneur s'est rendu sur cette montagne pour appeler ceux qu'il voulait. Le Seigneur est allé pour chercher la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Jésus savait que c'est pas une chose facile. Et vous savez, avoir les meilleurs collaborateurs, c'est très important dans une entreprise. Si vous n'avez pas su choisir vos proches collaborateurs, votre entreprise va s'écrouler. Parce qu'il faut avoir les hommes de confiance. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir avec qui tu partages les confidences, les projets de l'entreprise. Et donc, c'est très important pour les seigneurs. Et c'est pourquoi Jésus s'y est rendu. Et quand nous regardons dans Luc, il est même dit que Jésus a passé toute la nuit sur cette montagne pour prier en vue de choisir les 12. Et ça, c'est très important. Nous aussi, chrétiens, nous devons le faire. Devant une décision importante dans notre vie, nous devons nous aussi aller devant le Seigneur pour demander la volonté de Dieu. J'ai posé une question, j'ai prêché à Granada, dans l'église de l'Alliance là-bas, en Espagne, et j'ai demandé à la communauté, j'ai posé la même question chez moi aussi en Côte d'Ivoire, dans mon église, j'ai demandé aux fidèles, aux membres, chez vous ici en Europe, en Occident, quel est le réflexe que vous avez s'il y a une urgence dans la nuit, tard la nuit, dans votre maison? Je prends un cas de maladie brusque d'un enfant, par exemple. Quelle est la réflexion? Quelle est la réaction automatiquement quand vous êtes réveillé? Alors, plusieurs personnes, il y a eu deux groupes. Plusieurs personnes m'ont dit, notre réaction, c'est d'appeler le SAMU. Voilà, d'appeler le SAMU pour une intervention. Mais il y en a qui ont dit, nous allons d'abord confier à Dieu avant de faire appel. Et la même question, je l'ai posée en Afrique. Presque 90% des membres de l'église ont dit, nous allons d'abord prier avant d'appeler les SAMU. Ça dépend. Parce que certains pensent qu'il faut d'abord confier à Dieu et qu'il va conduire les SAMU, qu'il va conduire tout ce qui va suivre. Et il y en a qui disent, bon, il y a tellement d'urgence qu'il faut d'abord appeler les SAMU. Mais ce que je voudrais nous enseigner ici, c'est que nous cherchons la volonté de Dieu, que nous allions au pied de la croix du Seigneur. Le deuxième élément, c'est qu'il a appelé les gens selon sa volonté. L'appel vient de Dieu. Et nous voyons cela toujours dans le premier verset. Il appela ceux qu'il voulut. Le Seigneur Jésus n'a pas appelé les gens selon ces hommes qu'il appelait. Il n'a pas appelé les gens selon leur considération dans la société. Il n'a pas appelé les gens selon leurs privilèges dans la société. Il n'a pas appelé les gens selon qui ils sont dans leur milieu. Mais il a appelé les gens selon lui-même Jésus, sa volonté. Et ça, c'est très important. Le Seigneur ne se laisse pas influencer par ce que nous sommes ou par ce que nous faisons. Il y a un film sur le Seigneur Jésus-Christ qui est projeté quelquefois par une organisation Campus pour Christ. Et dans le scénario, c'est un film, c'est un montage. Il y a un aspect important qui m'a plu quand j'ai regardé ce film. On voyait dans un acte Jésus en train de choisir ses disciples. Et qu'est-ce qui se passe? Il met sa main sur un individu, on dit son nom, Pierre, Simon, ainsi de suite. Alors, la logique du choix, selon les gens qui regardaient Jésus en train de poser sa main sur les gens, c'est que s'il pose sur Pierre là, après, ça sera Jacques ici, la personne qui est juste à côté. Mais dans le scénario, j'ai vu quelque chose. Jésus avait choisi une personne là. Et la deuxième personne qui est à côté pensait que ça devait être son tour d'être choisi par Jésus. Et puis, bizarrement, le Seigneur, il quitte sur la première personne, il saute la deuxième personne, il est allé sur une troisième personne au devant là-bas. Et le monsieur l'a regardé de cette façon. Oh, il m'a laissé. Oui, parce que Jésus, il ne regarde pas votre proximité de quelqu'un d'autre pour vous choisir. Votre position n'a rien à voir. Il choisit selon lui sa propre volonté. Et c'est comme ça que nous devons comprendre. Des fois, nous sommes ici, nous pensons que nous sommes venus de nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est une association, l'Église. J'ai adhéré de moi-même. Je suis venu de moi-même. Personne ne peut me contraindre à quelque chose. Mais non, nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Nous sommes appelés par le Seigneur selon sa volonté. Oui, si je n'ai pas été appelé par le Seigneur, je ne serai pas devant vous ici. Et si vous n'avez pas été appelé par le Seigneur, vous ne serez pas devant moi ici. Souvent, le Seigneur utilise des manières pour nous appeler. Il peut vous appeler devant une difficulté, devant une maladie, devant une situation difficile que vous traversez. Mais Dieu envoie ces circonstances pour que vous le connaissiez. Mais vous n'êtes pas venu de vous-même. Et je sais que dans notre société aujourd'hui, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas gai, ce n'est pas beau d'éclamer devant tous qu'on est chrétien, n'est-ce pas, chez vous ici? Ce n'est pas beau dans les rues que je mette un panneau sur ma casquette. Je suis chrétien, je suis fier d'être chrétien. Les gens vont dire, mais ce monsieur, il n'a pas perdu la tête. Mais vous êtes là, vous. Des fois, vous êtes humilié, vous, on se moque de vous dans votre lieu de résidence, dans vos services, quand on apprend que vous êtes chrétien. Mais vous êtes là. Vous n'avez pas le choix, parce que vous n'êtes pas ici de vous-même. C'est le Seigneur qui vous a conduit ici. Moi, je suis d'une famille de 12 personnes. Mon père et ma mère ont eu 12 enfants. Oui. Ça, c'est la bonne famille africaine. Et je suis le 12e. Oui. Et vous savez, chez nous, en Afrique, c'est le respect de l'âgé, de la hiérarchie. Voilà, le plus petit doit respecter 12 rangs. Et il doit se soumettre au commandement de 12. Et chez nous, souvent, la correction, maintenant ça a changé, je parle de l'Afrique antique. La correction, quelquefois brutale, fait partie de l'éducation. Le fouet. Alors moi, le 12e, le dernier, j'étais corrigé par plusieurs. Mon grand frère le plus proche, il me frappe. Le 2e, il me frappe. Le 3e, il frappe. Et tous jusqu'au 11e, au 12e frère en haut. Et quand le Seigneur m'a appelé, le dernier, personne de ma famille ne connaît le Seigneur. Et je suis le seul chrétien. Et à la maison, j'étais humilié. On m'avait donné un surnom, Jésus Cra. C'est-à-dire, Jésus devient mon nom de famille ou mon prénom. Mais je ne pouvais pas quitter. Il m'arrivait deux fois de voir, mais quel choix ai-je opéré? Pourquoi je suis dans l'église? Pourquoi ne pas abandonner? Mais je ne pouvais pas. Mais ça, parce que ça ne venait pas de moi, bien-aimé. C'est le Seigneur qui m'imposait cela. C'est le Seigneur qui me contraignait à être là dans la foi. Bien-aimé, vous êtes là parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Vous n'êtes pas venu de vous-même. C'est le Seigneur qui vous a appelé. Le troisième et dernier élément sur lequel je vais finir ce message, c'est que Dieu nous a appelés pour une mission. Si Dieu vous a appelé, ce n'est pas pour rien. Et nous voyons cela à la fin du verset. Entre 14 et 15, il dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il y a une mission qui est confiée à tous ceux qui sont appelés selon la volonté de Dieu. Cette mission, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et ça, c'est important. Jésus avait besoin de 12 personnes pour les envoyer prêcher la bonne nouvelle avec le pouvoir de chasser les démons. Alors, souvent, on a des églises africaines. Pour ceux qui s'en vont en Afrique en mission, vous allez voir quelques églises là-bas, vous allez comprendre. Il y a des églises qui ont pour mission chasser les démons. Et leur vision, ici, église de la délivrance des âmes, église de chasser les démons, c'est, il y a des dénominations comme ça. Alors, toute la journée, ils peuvent faire 5 heures de temps en train de chasser les démons. Démons sort, démons sort, démons. Mais vous les chassez pour les mettre où? C'est où? La mission de l'église n'est pas d'aller chasser les démons. Notre mission est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais avec le pouvoir de chasser les démons, et je compare ça ce matin, je ne sais pas qui est policier, qui est gendarme, qui est corps habillé ici. Tous, nous sommes ordinairement habillés, nous sommes tous en civil. Personne n'effraie quelqu'un ici. Si quelqu'un est policier ici et qui se met sur la route là tout à l'heure, pour essayer de régler la route et d'arrêter des véhicules, en tenue ordinaire comme moi, qu'est-ce qui va se passer? On va appeler les autres policiers pour trouble à l'ordre public. Il y a un individu qui est sur la route là-bas. Par contre, si ce monsieur se met dans sa tenue de travail de policier, avec les gants blancs, et qu'il se met là, il met sa main en face d'un gros camion, quel que soit le tonnage, et la force et le poids du conducteur, qu'est-ce qui va se faire? Il va s'arrêter. La tenue donne le pouvoir à ce policier de faire. Ce n'est pas sa force physique. Et le Saint-Esprit en nous, dans cet envoi, joue ce rôle que joue la tenue du policier. Il est une puissance en nous et qui fraye notre chemin et qui chasse au devant de nous tout ce qui est démon et force des ténèbres. Mais notre mission principale, c'est que Dieu nous a établis pour nous envoyer prêcher la bonne nouvelle. Ça doit être la mission de tous. Souvent, on accuse les pasteurs. Si notre église ne grandit pas, c'est la faute au pasteur. Mais regardez vous-même. Mais le pasteur, il est là. Est-ce qu'il a un programme d'évangélisation? Non, c'est lui la faute. Mais les gens sont en train de sortir de l'église. Mais oui, c'est lui la faute. C'est son travail. Le pasteur est le seul qui joue contre 12. Bien-aimés, ce soir, je vous dis, c'est la mission à nous tous. Parce que Jésus nous a appelés pour nous établir pour cela. Et chacun de nous doit se donner à cette mission-là. Je vais vous donner une épreuve. Voyez-vous le nombre que nous sommes? Il y a encore des chaises vides, n'est-ce pas? Et même la rangée, elle est très large pour une église. Il n'y a pas de chorale qui passe là. On peut encore mettre des chaises complémentaires, n'est-ce pas, bien-aimés? Alors, imaginons que nous tous, nous nous disons appelés par le Seigneur, envoyés par le Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle, et que chacun s'y met. Je vais vous donner un exercice. Nous allons évaluer ça plus tard. Je pense que je reviendrai ici encore. Chacun de nous va être missionnaire. Vous savez, chez nous, c'est facile d'aller prêcher. Et j'ai fait cette expérience chez nous, en Afrique. Ça donnait des fruits. Je suis arrivé sur une église d'environ 300 à 400 membres, la moyenne. Et en quittant cette église, 4 années après, nous étions 1000. Et nous avons ouvert, j'avais la plus grande qui avait 700 membres. Et la deuxième, qui est notre annexe, avait 200 et quelques environ. Que j'ai dirigé jusqu'en 2015. Mais la stratégie, je vous donne, c'est que chacun de nous soit engagé dans la mission. Si chacun de nous s'engage, nous allons réussir cela aussi. J'ai demandé à tous mes fidèles, je vous donne un an pour faire venir quelqu'un dans l'église. 365 jours. Je ne demande pas deux. Je demande une seule personne. Arrange-toi pour trouver une personne pour venir avec elle ici dans l'église. Alors, les fidèles ont dit, mais pasteur, ça c'est facile. 361, 2, 3, jusqu'à 365 jours, ben, je peux faire venir quelqu'un. J'ai dit, ben, allons-y. Beaucoup ont échoué. Moi, j'ai réussi. Une seule personne qui est venue, qui n'est pas chrétienne, qui est restée. Mon épouse a été très forte. Elle a fait venir 4 personnes dans l'année. Les 4 personnes sont restées dans la communauté. Mais au bout de 4 années, notre nombre est allé jusqu'à 1000. Oh, chez vous, c'est difficile. Bon, chez nous, quand je sors à Abidjan, des fois, on a des embouteillages d'humains. Il faut s'effrayer un chemin pour passer. Tellement il y a du monde sur les routes. Les gens sont dehors. Mais ici, tout est fermé. C'est difficile. L'accès, il faut d'abord s'annoncer. Je viens chez toi. Il faut que j'aie ton numéro. Et quand j'arrive, tu vas me demander, c'est pour quoi, pasteur? Je dis, c'est pour parler de Jésus-Christ. Boum, tu raccroches. C'est difficile. Mais imaginons, vous avez des amis, vous avez des collègues de service, vous avez des membres de famille et qui peuvent vous écouter. C'est pourquoi c'est l'appel à nous tous d'aller faire ce travail-là. Ce n'est pas l'appel au seul pasteur, parce que le pasteur ne connaît pas toutes les personnes de Paris. Mais vous, vous connaissez certains. Et il vous revient de faire venir ces personnes dans l'église. Et si nous nous engageons tous à faire cela, bien-aimés, l'église ira mieux. Mais comme c'est difficile, je vais alléger un peu votre tâche ici. Moi, je vous donne 2 ans. 2 ans pour envoyer une personne dans l'église. 365 jours multipliés par 2. Quand même. Et si nous le faisons, ça veut dire dans 2 ans, le nombre que nous sommes là, nous serons multipliés aussi par 2. Et ainsi de suite, vous verrez que nous serons obligés d'occuper le parking pour en faire un temple. C'est ça que je voudrais vous laisser. Pour terminer, bien-aimés, c'est vrai, ça fait rire, mais c'est une mission qui nous est confiée à nous tous. Et je vous demande tous de faire cela. Que chacun fasse la sienne, cette mission. Que chacun aille, travaille dans ce sens, en complémentarité. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur seul. C'est une œuvre à nous tous. Que Dieu nous bénisse. Amen.